Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, vous écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, vous allez écouter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. La rubrique suivante, magazine culturel, et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le Japon s'intéresse à l'amélioration de la coopération en matière de recherche sur le champignon avec l'Indonésie. L'économie indonésienne du troisième trimestre 2017 se développe à 5,06%. La Conférence internationale des études islamiques animera l'Exposition internationale de l'éducation islamique ou IIEE 2017. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'Indonésie a l'une des richesses de la biodiversité, à savoir des champignons alimentaires qui commencent à se développer. Le champignon alimentaire indonésien a différents types, de sorte que le Japon est très intéressé à accroître la coopération de recherche sur les champignons avec l'Indonésie. C'est ce qu'a affirmé le chercheur de culture de champignons alimentaires du Centre de recherche en biologie de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, M. Iwan Saskiawan, à La Voix de l'Indonésie, après une conférence de presse sur la culture de champignons alimentaires en Indonésie au Media Centre de LIPI, Jakarta, lundi.
Saya punya kerjasama penelitian dengan dari Universitas Tottori di Jepang. Mereka tertarik dengan jenis-jenis jamur di Indonesia.
J'ai une coopération de recherche avec l'université japonaise Tottori. Ils sont intéressés à divers types de champignons en Indonésie parce que la biodiversité en Indonésie est plus élevée par rapport à d'autres pays subtropicaux. Nous coopérons pour développer des champignons tropicaux. La substance de champignons en Indonésie est plus élevée et elle peut être développée pour être la matière de nourriture. Iwan Saskiawan a également déclaré que le champignon devient l'un des aliments les plus nutritifs. Le champignon contient 19 jusqu'à 35% de protéines, plus élevé que le riz qui contient 7,38% de protéines et le blé contient 13,2% de protéines. Il espère que les agriculteurs de champignons en Indonésie pourraient augmenter leur culture de champignons, de sorte que le revenu et le bien-être augmenteraient également. L'Agence centrale des statistiques a annoncé au troisième trimestre 2017 la croissance économique nationale atteint 5,06%. Le directeur de l'Agence centrale des statistiques, M. Kecho Suharyanto, a déclaré que la croissance économique au troisième trimestre 2017 était supérieure à la croissance économique du deuxième trimestre, qui n'était que 5,01%. En cumulatif, la croissance économique nationale du premier au troisième trimestre 2017 a atteint 5,03%. Il y a beaucoup d'événements qui stimulent la croissance économique nationale au troisième trimestre 2017.
Yang pertama, harga komoditas migas dan non-migas di pasar internasional selama triwulan.
La première, le prix des produits pétroliers et gaziers et non pétroliers sur le marché international au cours du troisième trimestre montre une augmentation encourageante. Beaucoup de produits ont subi l'augmentation des prix et aussi des produits miniers. La deuxième note, les conditions de l'économie mondiale au troisième trimestre augmentent également. Selon Suharyanto, l'inflation en Indonésie est très contrôlée, où le prix de la nourriture subit la déflation. La réalisation des dépenses gouvernementales au troisième trimestre est aussi plus bonne. Cependant, la croissance de l'économie au troisième trimestre est plus bas des estimations de la Banque de l'Indonésie de 5,18%. Il espère que le quatrième trimestre 2017, la croissance de l'économie pourrait être plus élevée que celle du troisième trimestre. Le ministère des Affaires religieuses tiendra l'exposition internationale de l'éducation islamique, ou IIEE 2017. Cette activité aura lieu du 20 au 24 novembre 2017 à Bumi Serpong Damai, la province de Banten, sera animée par la conférence internationale annuelle sur les études islamiques. Le coordinateur des publications de IIEE 2017, M. Mohtadin, a déclaré à Jakarta lundi que ce sera la 17e conférence internationale annuelle sur les études islamiques et sera assisté par des milliers d'universitaires du Collège des religieuses islamiques. Selon lui, AICIS est un forum pour dialoguer des idées, des pensées, des nouvelles découvertes et aussi des médias pour établir des réseaux intellectuels entre les universitaires au sein du PTKI. La conférence internationale annuelle sur les études islamiques est un événement académique pour les examinateurs islamiques qui visent à échanger des idées et aussi renforcer le caractère de l'islam indonésien qui sont modérés et tolérants. AICIS 2017 prend le thème de religion, identité et citoyenneté. Il y a plusieurs sous-thèmes qui seront présentés par des scientifiques à l'intérieur et à l'étranger. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, ou UNESCO, considère que l'Indonésie est une superpuissance dans le domaine de la culture. La reconnaissance de l'UNESCO a été dite par le sous-directeur général de l'UNESCO dans le domaine de la culture, Francesco Bandarin, au ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Muhajir Effendi, en mars de la 39e Assemblée générale de l'UNESCO, qui a eu lieu au siège de l'UNESCO à Paris jusqu'à 14 novembre 2017. Muhajir Effendi a déclaré à Antara Londres récemment que sa présence à Paris, la France, était pour assister à l'Assemblée générale de l'UNESCO et l'Indonésie est en train de renforcer le soutien pour devenir le membre du Conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2017-2021. Selon le ministre de l'Éducation et de la Culture, l'Indonésie est riche en culture, ce qui a été présenté par l'UNESCO est vrai. Et il faut reconnaître que l'Indonésie devient une superpuissance dans le domaine de la culture. Il y a environ 600 objets du patrimoine culturel qui sont enregistrés au niveau national appartenant à l'Indonésie. Le directeur de la coopération économique de l'ASEAN du ministère des Affaires étrangères, M. Adi Putranto, a déclaré que la normalisation des produits des micro, petites et moyennes entreprises, ou MPME, devait être prioritaire face au marché libre, parce que la bonne qualité améliorera la compétitivité. Cela a été dit par Adi Putranto dans son discours à l'événement « L'utilisation de l'accord de pêche dans l'ASEAN » dans le but d'accroître l'accès du marché de la pêche à l'Asie du Sud-Est qui a eu lieu à Palembang mardi 7 novembre. Il expliquait que dans le marché libre, la compétitivité devait être améliorée afin que le produit soit plus attrayant. Jusqu'à présent, les normes de qualité qui sont préférées et l'accès au marché doivent être plus larges. Par conséquent, Adi Putranto souhaite la participation des gouvernements provinciaux, des districts et des municipalités à à l'encadrement et à la formation pour que les produits fabriqués répondent aux normes de qualité. Selon lui, la diplomatie économique est toujours l'une des priorités pour augmenter le marketing sur le marché libre. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La visite de Donald Trump à l'Extrême-Orient ». Depuis la fin de la semaine dernière, le président américain Donald Trump a commencé sa visite pendant 12 jours dans 5 pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est, tels que le Japon, la Corée du Sud, la Chine, le Vietnam et les Philippines. Le premier pays qu'il a été visité était le Japon pour rencontrer les dirigeants japonais, y compris l'empereur Akihito. Les relations entre le Japon et les États-Unis sont de plus en plus intenses depuis la visite du Premier ministre Shinzo Abe aux États-Unis il y a quelque temps. Le Japon se rapproche des États-Unis après que la Corée du Nord a testé plusieurs missiles à longue portée et à moyenne portée. En plus des questions politiques, M. Abe semble vouloir que les États-Unis puissent continuer le programme de partenariat transpacifique. Après avoir pris ses fonctions, le président Donald Trump a signé la démission américaine de ce groupe de partenariat. Malgré une tendance protectionniste, Donald Trump n'a pas encore attiré les États-Unis de l'APEC. Après le Japon, le prochain pays qui sera visité par Donald Trump est la Corée du Sud. La visite pour montrer le soutien de Trump à la Corée du Sud. Continuant sa visite en Extrême-Orient, le président Donald Trump a également visité la Chine. Trump veut que la Chine joue un rôle plus important pour forcer Pyongyang à arrêter un programme provocateur à ses voisins, la Corée du Sud et le Japon. De plus, le président Donald Trump continuera son voyage au Vietnam pour assister au sommet de l'APEC. Apparemment, la présence de Trump au sommet de l'APEC a renforcé l'attitude que les États-Unis existent encore dans la région, même s'ils ne participent pas au partenariat transpacifique. Les Philippines sont le dernier pays asiatique que Trump visitera et serait la plus longue. On souhaite que la visite de Trump n'est pas seulement un voyage dans des pays alliés comme le Japon, la Corée du Sud et les Philippines. Le plus important est que les États-Unis jouent un rôle commun pour surmonter la crise nucléaire nord-coréenne et les problèmes dans la mer de Chine méridionale, parce que son impact sera sur tous les pays de la région. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteurs, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Adolf Hitler a échappé à une tentative d'assassinat dans la ville allemande München le 8 novembre 1939. George Elster est une figure majeure mais longtemps méconnue de la résistance contre le nazisme. Le 8 novembre 1939, il tente d'éliminer Hitler dans le but d'empêcher la poursuite de la guerre, déclenchée deux mois plus tôt avec l'attaque de la Pologne par l'Allemagne. Ancien membre du Roter Frontkampfverbund, ou Union des combattants du Front Rouge, l'organisation combattante du Parti communiste d'Allemagne, ou Kommunistische Partei Deutschland, ou KPD, dans les années 1928-1929, il fait exploser une bombe artisanale destinée à éliminer les principaux dirigeants nazis réunis le 8 novembre 1939 à Munich pour y célébrer le putsch raté de 1923, ce dans la grande salle de la brasserie Burgenbräukeller. Mais Hitler et les dignitaires du régime qui l'accompagnaient ont quitté la salle plus tôt que prévu, précisément 13 minutes avant l'explosion. Contrairement à d'autres figures souvent plus connues de la résistance allemande au nazisme, dont certains ont d'abord collaboré au régime avant de se décider à agir. Cet ébéniste de profession rejette dès le départ l'hégémonie nazie, refusant par exemple de faire le salut hitlérien. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec la journée mondiale de l'urbanisme le 8 novembre. La journée mondiale de l'urbanisme a été fixée par le professeur Carlos Maria de la Paulera de l'Université de Buenos Aires en Argentine et a été mis en œuvre chaque année par plus de 30 pays depuis le 8 novembre 1949. Il vise à souligner l'importance de la contribution de la bonne organisation spatiale en communiquant les objets et les progrès réalisés dans l'organisation des arrangements spatiaux des villes et régions aux communautés locales et à travers le monde. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec la mise au point sur l'environnement et en pour le titre. Les nouvelles espèces d'orang-outan de Tapanuli sont découvertes. L'Indonésie publie officiellement la découverte d'une nouvelle espèce d'orang-outan de Tapanuli nommée en latin Pongo tapanuliensis. L'habitat est situé dans l'écosystème de Batang Toru, la région du sud de Tapanuli en province de Sumatra du Nord. Les résultats sont rapportés dans le journal international célèbre Current Biology jeudi 2 novembre par Michel Krutzen, généticien de l'Université de Zurich en Suisse, Anton Rucahyo de l'École d'archéologie et d'anthropologie de l'Université nationale australienne et ses collègues. Cette découverte a également été rapportée à la ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, quelques jours plus tôt. La recherche menée depuis 1997, qui a fixé les orang-outans de Tapanuli comme troisième espace après Pongo pygmaeus, ou les orang-outans de Kalimantan, et Pongo abeli, ou les orang-outans de Sumatra. Génétiquement, les orang-outans dont la population de moins de 800 individus ressemble à celle de Kalimantan. Les chercheurs soupçonnent que ce type provient des descendants de leurs ancêtres qui ont quitté les plaines asiatiques au Pléistocène, il y a 3 ou 4 millions d'années. La conclusion de recherche était que les orang-outans de Kalimantan, Sumatra et Tapanuli étaient composés de 3 lignes évolutives différentes. Cette reconnaissance internationale sera suivie par son fixation avec le statut d'un danger. Cela est dû au fait qu'il n'y a que 800 individus sur la zone de 15 000 hectares de la zone fragmentée. Sa population est également divisée en deux zones principales, à savoir les blocs occidental et oriental, et une petite population dans la réserve naturelle de Sibualbuali au sud-est du bloc occidental. En outre, entre les blocs occidentaux et orientaux ont été coupés de la route nationale. Un membre de l'équipe de recherche sur l'orang-outan de Tapanuli de l'Institut Agricole de Bogor à Jakarta a déclaré qu'une action urgente était nécessaire pour réobserver les propositions de développement régional dans cette région. De cette façon, l'écosystème naturel est maintenu pour la survie du futur orang-outan de Tapanuli. La même chose a été dite par le directeur général de la conservation des ressources naturelles et de l'écosystème du ministère de l'Environnement et des Forêts, Wiratno. Selon lui, cette population d'orang-outan de Tapanuli est menacée par la conversion des forêts et d'autres développements. Par conséquent, leur habitat doit être géré correctement. Il n'y a plus de fragmentation comme le défrichage. Cette position de l'habitat de l'orang-outan fait également partie du processus décisionnel et de l'atténuation de l'impact du développement. Il assure qu'il n'y avait pas d'investissement de développement qui utilise des terres à grande échelle dans cette région. Le gouvernement organisera l'emplacement des barrages hydroélectriques, de la géothermie, des agriculteurs, des communautés et des champs. Serviteurs, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
L'Indonésie a l'une des richesses de la biodiversité, à savoir des champignons alimentaires qui commencent à se développer. Le champignon alimentaire indonésien a différents types, de sorte que le Japon est très intéressé à accroître la coopération de recherche sur les champignons avec l'Indonésie. C'est ce qu'a affirmé le chercheur de culture de champignons alimentaires du Centre de recherche en biologie de l'Institut indonésien des sciences, ULIPI, M. Iwan Saskiawan, à la Voix de l'Indonésie, après une conférence de presse sur la culture de champignons alimentaires en Indonésie au Media Centre de l'IPI, Jakarta, lundi.
Saya punya kerjasama penelitian dengan dari Universitas Tottori di Jepang. Mereka tertarik dengan jenis-jenis jamur di Indonesia.
J'ai une coopération de recherche avec l'université japonaise Tottori. Ils sont intéressés à divers types de champignons en Indonésie parce que la biodiversité en Indonésie est plus élevée par rapport à d'autres pays subtropicaux. Nous coopérons pour développer des champignons tropicaux. La substance de champignons en Indonésie est plus élevée et elle peut être développée pour être la matière de nourriture. Iwan Saskiawan a également déclaré que le champignon devient l'un des aliments les plus nutritifs. Le champignon contient 19 jusqu'à 35% de protéines, plus élevé que le riz qui contient 7,38% de protéines et le blé contient 13,2% de protéines. Il espère que les agriculteurs de champignons en Indonésie pourraient augmenter leur culture de champignons de sorte que le revenu et le bien-être augmenteraient également. L'Agence centrale des statistiques a annoncé au troisième trimestre 2017 la croissance économique nationale atteint 5,06%. Le directeur de l'Agence centrale de statistiques, M. Kecho Suharyanto, a déclaré que la croissance économique au troisième trimestre 2017 était supérieure à la croissance économique du deuxième trimestre, qui n'était que 5,01%. En cumulatif, la croissance économique nationale du premier au troisième trimestre 2017 a atteint 5,03%. Il y a beaucoup d'événements qui stimulent la croissance économique nationale au troisième trimestre 2017.
Yang pertama, harga komoditas migas dan non-migas di pasar internasional selama tribulan.
La première, le prix des produits pétroliers et gaziers et non pétroliers sur le marché international au cours du troisième trimestre montre une augmentation encourageante. Beaucoup de produits ont subi l'augmentation des prix et aussi des produits miniers. La deuxième note, les conditions de l'économie mondiale au troisième trimestre augmentent également. Selon Suharyanto, l'inflation en Indonésie est très contrôlée, où le prix de la nourriture subit la déflation, la réalisation des dépenses gouvernementales au troisième trimestre est aussi plus bonne. Cependant, la croissance de l'économie au troisième trimestre est plus bas des estimations de la Banque de l'Indonésie de 5,18%. Il espère que le quatrième trimestre 2017, la croissance de l'économie pourrait être plus élevée que celle du troisième trimestre. Le ministère des Affaires religieuses tiendra l'Exposition internationale de l'éducation islamique, ou IIEE 2017. Cette activité aura lieu du 20 au 24 novembre 2017 à Bumi Serpong Damai, la province de Banten, sera animée par la Conférence internationale annuelle sur les études islamiques. Le coordinateur des publications de IIEE 2017, M. Mohtadin a déclaré à Jakarta lundi que ce sera la 17e conférence internationale annuelle sur les études islamiques et sera assistée par des milliers d'universitaires du Collège des religieuses islamiques. Selon lui, AICIS est un forum pour dialoguer des idées, des pensées, des nouvelles découvertes et aussi des médias pour établir des réseaux intellectuels entre les universitaires au sein du PTKI. La conférence internationale annuelle sur les études islamiques est un événement académique pour les examinateurs islamiques qui vise à échanger des idées et aussi renforcer le caractère de l'islam indonésien qui sont modérés et tolérants. AICIS 2017 prend le thème de religion, identité et citoyenneté. Il y a plusieurs sous-thèmes qui seront présentés par des scientifiques à l'intérieur et à l'étranger. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, ou UNESCO, considère que l'Indonésie est une superpuissance dans le domaine de la culture. La reconnaissance de l'UNESCO a été dite par le sous-directeur général de l'UNESCO dans le domaine de la culture, Francesco Bandarin, au ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Muhajir Effendi, en mars de la 39e Assemblée générale de l'UNESCO, qui a eu lieu au siège de l'UNESCO à Paris jusqu'à 14 novembre 2017. Muhajir Effendi a déclaré à Antara Londres récemment que sa présence à Paris, la France, était pour assister à l'Assemblée générale de l'UNESCO et l'Indonésie est en train de renforcer le soutien pour devenir le membre du Conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2017-2021. Selon le ministre de l'Éducation et de la Culture, l'Indonésie est riche en culture, ce qui a été présenté par l'UNESCO est vrai. Et il faut reconnaître que l'Indonésie devient une superpuissance dans le domaine de la culture. Il y a environ 600 objets du patrimoine culturel qui sont enregistrés au niveau national appartenant à l'Indonésie. Le directeur de la coopération économique de l'ASEAN du ministère des Affaires étrangères, M. Adi Putranto, a déclaré que la normalisation des produits des micro, petites et moyennes entreprises, ou MPME, devait être prioritaire face au marché libre, parce que la bonne qualité améliorera la compétitivité. Cela a été dit par Adi Putranto dans son discours à l'événement « L'utilisation de l'accord de pêche dans l'ASEAN » dans le but d'accroître l'accès du marché de la pêche à l'Asie du Sud-Est qui a eu lieu à Palembang mardi 7 novembre. Il expliquait que dans le marché libre, la compétitivité devait être améliorée afin que le produit soit plus attrayant. Jusqu'à présent, les normes de qualité qui sont préférées et l'accès au marché doivent être plus larges. Par conséquent, Adi Putranto souhaite la participation des gouvernements provinciaux, des districts et des municipalités à l'encadrement et à la formation pour que les produits fabriqués répondent aux normes de qualité. Selon lui, la diplomatie économique est toujours l'une des priorités pour augmenter le marketing sur le marché libre. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans le magazine culturel. Pour aujourd'hui, nous vous invitons à vous rendre à la plage de Rini, Yogyakarta. Alors, soyez toujours avec nous, la Voix de l'Indonésie, le service international de RRI. Outre par les zones courtes, vous pouvez écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, Gunung Kidul est l'une des résidences de Yogyakarta. Parce qu'elle est directement adjacente à l'océan Indien, Gunung Kidul est dotée de belles plages. L'une d'elles est la plage de Dirini. La plage a un beau sable blanc, le bruit des vagues et l'eau de mer bleue. Beaucoup de touristes qui viennent à la plage apprécient la beauté du coucher de soleil. La plage de Dirini est située au village de Ngestirejo, sous-communauté de Tanjung Sahi dans la résidence de Gunung Kidul, Yogyakarta. Sa distance est d'environ 60 km ou environ 2 à 3 heures de Yogyakarta par les véhicules à moteur. Pendant le voyage, les visiteurs seront présentés de beaux paysages de collines de Corée. Lors de l'arrivée à la porte d'entrée, les visiteurs doivent marcher environ 400 mètres jusqu'à la plage. Le billet d'entrée n'est pas cher, vous payez seulement 10 000 roupias. À la plage, il y a des belvédères et plusieurs restaurants qui servent divers types de fruits de mer qui peuvent susciter l'appétit. Chers auditeurs, l'attraction de la plage de Dirini est sur un grand corail qui est situé au milieu de la plage et divise la plage en deux côtés, à savoir le côté occidental et oriental. Le corail est comme une petite île flottant au milieu de la plage. Les gens disent que sur l'île, elle est envahie par les zèbres de Santigui où les gens locaux le mentionnent Dirini. C'est pourquoi la plage s'appelle Dirini. Si la mer est à marée basse, vous pouvez aller à l'île. Sur l'île, il y a une phare où vous pouvez voir des paysages étonnants. De la tour, vous pouvez voir clairement les arbres parmi les récifs coralliens et le biote marin. Serviteur, une atoll divise la place de Dirini en deux côtés avec le caractère différent. Le côté est calme et le côté ouest est féroce. À l'est, vous verrez une haute falaise qui est combinée avec des roches solides qui protègent la place de la férocité des vagues. Si la place est à marée basse, vous pouvez voir de petits poissons. Si vous marchez loin de la place, vous devez faire attention aux coraux tranchants. Du côté ouest, c'est aussi intéressant. Sa surface plane rend ce côté très confortable pour jouer de l'eau. Ici, beaucoup de gens nagent et apprécient l'eau de mer fraîche. À la plage, il y a des bateaux de pêcheurs prêts à pataugeer dans les vagues féroces de l'océan Indien. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir avec le titre « La plage de Dirini à Yogyakarta ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici la rubrique Apprendre l'indonésien. Le sujet pour aujourd'hui est berwisata ke kota Malang. Je répète, berwisata ke kota Malang. En français, voyager à la ville de Malang. Comme d'habitude, je vais présenter certains vocabulaires et expressions reliant à la conversation aujourd'hui. Berwisata ke kota Malang. Berwisata ke kota Malang. En français, voyager à la ville de Malang. Cuti kerja. Cuti kerja. En français, un congé de travail. Aku dengar. Aku dengar. En français, j'ai entendu. Satu minggu. Satu minggu. En français, une semaine. Ada rencana. Ada rencana. En français, il y a des plans. Pergi. Pergi. En français, partir. Jawa Timur. Jawa Timur. En français, Java de l'Est. Kunjungi. Kunjungi. En français, visiter. Museum angkut. Museum angkut. En français, le musée des transports. Tempat wisata selekta. Tempat wisata selekta. En français, le site touristique selekta. Aku jelaskan. Aku jelaskan. En français, j'explique. Jangan samakan. Jangan samakan. En français, ne pas égaler. Museum lain. Museum lain. En français, des autres musées. Pengalaman menarik. Pengalaman menarik. En français, l'expérience intéressante. Berfoto. Berfoto. En français, prendre des photos. Mobil antik. Mobil antik. En français, voiture ancienne. Berbagai tipe. Berbagai tipe. En français, différents types. Taman récréasi. Taman récréasi. En français, le parc de loisirs. Sekitar 20 km. Sekitar 20 km. En français, environ 20 km. Sebelah barat. Sebelah barat. En français, côté de l'ouest. Dapat kita coba. Dapat kita coba. En français, nous pouvons essayer. Bisa ikut. Bisa ikut. En français, peux-tu me rejoindre? Kantor. Kantor. En français, bureau. Kapan berangkat? Kapan berangkat? En français, quand tu pars? Besok jam 7. Besok pagi jam 7. Besok pagi jam 7. En français, demain matin à 7h. Bandara Cengkareng. Bandara Cengkareng. En français, l'aéroport de Cengkareng. Selamat jalan. Selamat jalan. En français, bon voyage. Chers amis, maintenant j'utilise ces mots et phrases dans la conversation entre Rani A et Lisa B. A. Rani, aku dengar kamu cuti kerja selama satu minggu. Rani, aku dengar kamu cuti kerja selama satu minggu. En français, Rani, j'ai entendu que tu seras en congé pour une semaine. B. Ya, aku ada rencana pergi ke Kota Malang, Jawa Timur. Ya, aku ada rencana pergi ke Kota Malang, Jawa Timur. En français, oui, j'ai des plans pour voyager à Malang, Java de l'Ouest. A. Apa rencana kamu selama di Kota Malang? Apa rencana kamu selama di Kota Malang? En français, quels sont tes plans pendant le voyage? Aku akan mengunjungi museum angkut dan tempat wisata selekta. Aku akan mengunjungi museum angkut dan tempat wisata Selecta. En français, je vais visiter le musée de transport et le site touristique Selecta. Apa kamu bisa ikut? Apa kamu bisa ikut? En français, peux-tu me rejoindre? Ah, maaf, aku tidak bisa ikut kamu. Di kantor banyak pekerjaan yang belum selesai. Maaf, aku tidak bisa ikut kamu. Di kantor banyak pekerjaan yang belum selesai. En français, désolé, je ne peux pas te rejoindre. Il y a beaucoup de travail au bureau que je dois faire. B. Aku berharap di lain waktu kamu bisa ikut. Aku berharap di lain waktu kamu bisa ikut. En français, j'espère que lors de notre voyage tu pourras venir. A. Kapan kamu berangkat? Kapan kamu berangkat? En français, quand tu pars? B. Besok pagi. Naik pesawat jam 7 dari Bandara Cengkareng. Besok pagi. Naik pesawat jam 7 dari Bandara Cengkareng. En français, demain matin, je vais prendre l'avion à 7 heures de l'aéroport de Cengkareng. A. Baiklah, selamat jalan. Baiklah, selamat jalan. En français, alors, bon voyage. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Couleur du son. Programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Et cette fois, nous allons vous présenter des chansons chantées par le groupe de musique Alexa. Bon, on va écouter la première chanson intitulée Plus lumineux comme un. We make it alive. Vous êtes en train d'écouter la rubrique musicale de la voix de l'Indonésie chantée par groupe de musique Alexa. Le groupe dont les membres sont d'anciens membres de différents groupes musicaux, ce sont Satrio guitariste, Jemono bassiste. Avec le rêve, ils réalisent enfin ce groupe. Ils ont également invité certains de leurs amis à rejoindre dans leur groupe. Leurs amis invités sont Rizky guitariste, Daun Bader et Aki comme chanteur. Avec la musique pop et rock, Alexa est entré officiellement dans l'industrie musicale indonésienne en 2008. Le premier œuvre d'Alexa est un album éponyme intitulé Alexa qui contient 10 chansons. La chanson principale de l'album, intitulée Ne pars jamais ou en indonésien Jangan pernah pergi. Deux autres chansons du premier album Alexa sont également célébrées, sont Ne lâche pas et La Déesse. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de groupe Alexa intitulées Encore une fois. Bonne écoute. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. et c'était des chansons pop chantées par groupe de musique Alexa. Jusqu'à présent, ce groupe a sorti 3 albums, Song Alexa, la deuxième édition en 2010 et Le Penser, Hier et Maintenant, sorti en 2015. Soutenu par des fans qui s'appellent Alexis, ce groupe existe jusqu'à présent. Bon, chers amis, écoutons maintenant la dernière chanson, intitulée 1-0, toujours chantée par Alexa. Merci à tous et au revoir.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie à Jakarta. C'était des chansons indonésiennes chantées par le groupe de musique Alexa. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.